Bonjour et bienvenue dans Une Heure en Série, saison 1, épisode 8. Une Heure en Série, l'émission qui, chaque semaine, décrypte et analyse l'actualité des séries télé et vous recommande ce qu'il ne faut pas manquer ou au contraire, ce qu'il est préférable d'éviter. Au programme cette semaine, super pouvoir, Lego et école primaire dans Raising Diane sur Netflix, guerre froide, double identité et trahison idéologique dans Deutschland 83 sur France 3 et enfin Tiananmen, devoir de mémoire et journalisme de guerre avec Chimérique sur Canal+.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et autour de cette table, tous les traîtres et agents doubles possibles et imaginables. Je vous ai concocté une petite table assez parfaite dans le registre. Avec tout d'abord Ava Kahn. Bonjour Ava.
Bonjour,
on vous retrouve dans le cercle avec Augustin Trapenat, mais également sur le site French Mania qui pourrait devenir une parution bientôt.
Ça va venir, oui.
Génial, je suis ravi. Ariane Allard, Cosette, positif.
Bonsoir.
Le cinéma
enfin,
et le féminisme et les séries télé, bien évidemment. Et plus traîtres et agents doubles, il n'y a pas.
Pas du tout,
Benoît.
Salut Xavier.
Bonjour Benoît.
Je suis le plus bisounours de l'équipe.
Ouais, bon, c'est ce que c'est les bisounours, ils ont l'air comme ça, voilà. On vous retrouve tous les vendredis dans le 5-7 de Mathilde Munoz et également régulièrement sur Télé Matin. Alors, vous nous avez écrit cette semaine, on va quand même citer le courrier de Marie-Claire Vignaud, offusquée, frustrée, est exactement le terme qu'elle a employé, suite au débat la semaine dernière qui n'a pas été très favorable, à l'exception de Benoît Lagan, pour la série Mytho sur Arte. Elle en sort frustrée de notre émission. Le personnage principal, mère de famille, a tout à gérer, chacun se sert, prouve son insatisfaction et personne ne l'épaule. Elle met en place un test pour les mettre en face de leur manque de dignité et de reconnaissance et elle le fait en toute lucidité. Elle tente cette carte pour ressouder sa famille et en cela, son mensonge est très courageux et admirable. Comme vous pouvez le lire, elle parle des mots qu'elle vient de prononcer. Tout le monde n'a pas la même lecture de la médiocrité des valeurs de notre société. Merci beaucoup Madame Vignaud d'avoir un peu réhabilité. Je sais que la table avait été défavorable. Oui. S'il y avait eu Ava ou Ariane, je crois qu'en revanche, la balance aurait penché.
Ouais. Beaucoup plus favorable.
C'est la justice de cette émission de débat, mais aussi le plaisir de pouvoir en discuter. En tout cas, nous continuons de vous recommander Mytho sur Arte, qui est toujours disponible sur le site de la chaîne. Et on commence tout de suite par Raising Diane, en anglais se performe de semaine en semaine quand même, depuis le 4 octobre sur Netflix, ça a été retitré en français. Comment élever un super-héros, c'est pas très vendeur. Sans doute ont-ils craint que Raising Diane, les gens pensent que c'était un feuilleton sur la petite enfance de Céline Dion. Et là, effectivement, il y avait de quoi fuir.
On est globalement déçus de toute façon.
Personne ne chante Céline Dion en entrée de jeu.
Non.
Très bien, je peux donc résumer. Comment élever un super-héros depuis la disparition de son mari qui a péri noyé, Nicole élève seule son fils Diane. Voilà le fameux Diane. Un petit garçon hyperactif, hyper éveillé, hyper bavard, passionné de science et de Lego, jusqu'au jour où sa mère découvre qu'il possède aussi des hyper pouvoirs.
Monsieur, j'ai pas de doudou.
Diable.
Il se passe vraiment quelque chose de bizarre.
Combien de temps tu penses pouvoir le cacher ici? Le gouvernement traque tous les gens qui ont des super-pouvoirs.
Je sais quelques petites choses sur Dion. Je crois que les tempêtes sont attirées par notre fils.
Où est mon fils, madame? Où est mon fils?
Je suis ta maman. On est une équipe, d'accord?
Voilà, face au super pouvoir de son petit rejeton plus solitaire que jamais, Nicole va devoir adapter ses manuels d'éducation et tenter de sauver son fils des griffes d'un super méchant aux allures de tempête électrique. Alors, c'est adapté d'un comic book signé par Dennis Liu et Jevon Pipperberg, qui sont également les coproducteurs de cette série, ainsi que Michael B. Jordan, qu'on a pu voir dans Black Panther et Creed, et dont on sait qu'il aime les rôles torse nu et qu'il a en plus le physique totalement adapté à cela. Bon, évidemment, dans le même personnage, ce serait moins vendeur tout de suite. Et c'est avec le choupinou Jia Yong, alors lui, il va falloir qu'il change de prénom s'il veut revenir dans l'émission, qui joue le petit Diane et qui, je trouve, est d'un naturel déconcertant. Citons également la superbe Alicia Wainwright dans le rôle de sa maman. Netflix, là, visiblement, super-héros, petit garçon, s'adresse à un public peut-être un petit peu plus jeune que d'habitude. Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est déplaisant? Est-ce qu'on s'envole avec Diane? À vous de me le dire, Ava.
Eh ben, c'est un programme tout public, effectivement. Un genre de fiction familiale, assez tendre, qui donne envie d'être bon public. Maintenant, je ne vous le cache pas, moi, ça m'a déçue à plusieurs niveaux. D'abord, dans la forme. Je trouve que le principal problème, c'est la mauvaise alliance des genres, quoi. Ça ne prend pas tout à fait. On est à la fois dans la chronique familiale qui se penche sur la question raciale dans l'Amérique contemporaine.
J'ai oublié de dire que ce soit une famille de blacks.
Absolument. Ouais, absolument. Et la fable fantastique où il y a une force maléfique, comme vous l'avez dit, qui doit être absolument combattue. Ensuite, dans l'esthétique, ça lorgne un petit peu du côté de Stranger Things. Mmh. On entend d'ailleurs dans la sonnerie du téléphone portable d'un des personnages, c'est carrément une citation à Stranger Things. Et je trouve ça moins beau visuellement, moins réussi. Les effets spéciaux patinent un petit peu. Il y a des moments dans la mise en scène qui sont un peu classiques, un peu mélo, un peu clipesques. La structure manque globalement de tonus. J'ai pensé, en regardant ce programme, aux incroyables pouvoirs d'Alex, qui était une de mes séries préférées quand j'étais adolescente. On y avait une adolescente, voilà, qui avait des super pouvoirs aussi. La force de la série, je crois que c'est le jeune héros, véritablement, hein, vif, joufflu. Voilà, je n'y arriverai pas, donc je vous laisse le dire. Un petit garçon qui n'a qu'une amie, hein, qui est complètement solitaire, une amie qui est en fauteuil roulant, qui s'appelle Esperanza, ça veut tout dire. Et puis, cette maman, courage, cette mère héroïque, voilà. Je suis un petit peu embarrassée parce que j'ai envie d'aimer a priori sur le papier et malheureusement, eh ben, c'est un peu tous les thèmes Disney qu'on retrouve.
Et voilà.
Voilà, le deuil, la résilience.
C'est pas sur la bonne chaîne.
Peut-être pas.
Non, mais si, c'est sur la bonne chaîne.
Benoît Lagarde, qui je n'ai pas donné la parole, mais qui l'apprend,
non,
la tyrannie.
Mais parce que moi, j'ai plutôt aimé, j'ai quelques réserves aussi, mais j'ai plutôt aimé, justement, ça pourrait être typiquement une série de ABC Family aux États-Unis. Donc, une série familiale,
ABC, vous rappelez
ABC,
peut-être pour les auditeurs.
une chaîne donc ABC, une chaîne commerciale américaine, et qui a sa section famille avec...
Qui dépend de Disney.
Voilà, et qui dépend de Disney.
Mais qui a eu des programmes assez audacieux, les Forsters, un couple de lesbiennes, qui a adopté les enfants, voilà. Par exemple, venait de ABC. C'est pas simplement.
Et puis, il y a de très bonnes séries, mais sauf que, voilà, ça doit un peu gommer certaines aspérités, peut-être. Et Netflix a besoin de toucher tous les publics. Et donc, c'est très bien d'avoir lancé ce genre de série. Moi, j'ai plutôt aimé, je suis pas tout à fait d'accord avec Ava sur le mélange des genres. Moi, justement, j'ai trouvé que sur la dimension chronique familiale qui manque, mais cruellement aux séries de super-héros en général, qui très vite nous amène dans une aventure extraordinaire avec du gros suspense, ou à la fin de l'épisode, on a envie de savoir la suite pour savoir mais comment ils vont s'en sortir ou comment il va devenir super-héros. Là, je trouve que on s'en fiche presque. Le fait qu'il soit super-héros. Et ce qui nous intéresse, c'est le rapport au deuil, justement. Et je trouve ça assez touchant, assez émouvant, et plutôt bien porté. Et peut-être que c'est la série qui va permettre à ceux qui ne supportent pas les séries de super-héros de regarder une série avec un super-héros, comme ceux qui détestent les médecins regardent parfois des séries médicales.
C'est intéressant, la chronologie, je vais y réfléchir. Ariane Allard, vous avez un cœur, vous aimez les enfants, vous aimez les super-héros, surtout quand ils sont adultes, bien formés et en costume moulant. Qu'avez-vous pensé de comment élever un super-héros?
En plus, je suis une lectrice de Strange, c'est-à-dire enfant, j'ai lu ce genre de magazine et j'adorais ça. Alors cette série, je l'ai trouvée, moi, très honnêtement, globalement insupportable. Je trouve qu'il y a un discours qui est hyper moralisateur, c'est du préchi-précha à longueur d'épisode. En plus, l'écriture est assez paresseux, je trouve qu'ils mettent un temps fou à mettre en place les situations, les personnages, le premier épisode, mais enfin il y a rien qui se passe, il faut attendre le deuxième pour commencer à comprendre les interrelations, ne serait-ce qu'entre les personnages. Mais c'est surtout cette vision, je trouve, mais moralisatrice, édifiante des liens familiaux. Il y a une phrase gimmick qui revient sans arrêt tout le long, c'est you got tout, c'est-à-dire tu dois faire, et c'est sans arrêt ça, c'est-à-dire que aussi bien les enfants que les adultes se retrouvent coincés dans une espèce de carcan de consignes, d'obligations, de règles, de formules. C'est quand même très curieux parce qu'en plus ça raconte l'enfance et l'histoire d'un enfant qui justement sort du cadre et sort des normes, et en fait on se rend compte que le discours est hyper normatif. Voilà. Il y a juste encore une autre chose que je voulais dire, c'est que par exemple la maman qui est désignée essentiellement comme une mère et comme une épouse, hein, elle n'a pas d'eau de vie en dehors de ça, elle a quand même le droit de temps en temps d'avoir des petites scènes avec ses copines. Et de quoi parle-t-elle avec ses copines qui sont toutes des filles qui sont superbes, très belles et qui ont quand même une vie, visiblement, elles sont danseuses, enfin elles font des choses quoi. Ça ne parle que des mecs et plutôt de l'absence des mecs, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ne peuvent se définir que par l'absence d'un homme. Moi, je trouve ça insupportable qu'on puisse encore entendre ça, encore aujourd'hui, et surtout que c'est destiné justement à un public familial, c'est-à-dire qu'on nous donne une vision incroyablement formatée des relations humaines.
Non, mais c'est parce que c'est surtout au début de la série, le personnage est en deuil. Enfin, donc c'est l'absence du père est présente et importante par rapport à l'histoire qui nous est racontée. On va pas commencer à un moment donné, et puis je trouve que quand elle va chercher, elle cherche du travail, elle existe autrement que quand même en tant que mère.
Moi, je trouve pas.
Bon, si j'en juge Raving Diane, Diane n'a pas totalement réussi son envol au pays des super-héros, mais
laissons
peut-être, voilà, la deuxième saison lui sera-t-elle favorable. Raving Diane, comment élever un super-héros, c'est catastrophique ce titre, depuis le 4 octobre
ça
sur Netflix.
Ça veut dire
c'était Tyler the Creator. Oh, qu'est-ce que je parle bien.
Bilingue,
ça va, ouais, arrêtez. Dans le titre Earthquake, tu fais trembler ma terre et ton amour me remue et me fait battre le cœur. Un super héros du sentiment et du palpitant. Pour la petite histoire, c'est une chanson qui a été refusée par Justin Bieber, puis par Rihanna. Ils ont bien fait, puisque Tyler, the Creator, a connu un carton et a hit avec cette chanson, comme quoi, de temps en temps, quand les gens vous disent non, c'est pour votre bien, et ça fait partie de la playlist de France Inter, bien évidemment.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment que toutes les auditrices, surtout, qui sont très sensibles à sa voix suave, attendent en trépignant. Je veux parler évidemment de l'effet miroir où Benoît Lagarde, malgré sa jeunesse de corps et d'esprit, revisite l'histoire de la série télé pour nous prouver que le petit écran a parfois été en avance sur le grand pour lire la société moderne. Et aujourd'hui, dans l'effet miroir, vous faites tourner les rotatives. Oui, voilà un mot moderne, rotative.
Rotative, ouais. Oui, en effet, Chimérica, dont on va parler tout à l'heure, une série sur un autre journaliste de série, un autre drama journalistique, Lou Grant. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas du personnage, petit rappel, pour nous Français, la série Lou Grant était diffusée en bouche-trou, dans la grille, comme souvent à cette époque d'ailleurs, le samedi, en début d'après-midi, sur Antenne 2, avant de basculer sur la 5, thank you la 5, alors qu'elle aurait dû être mieux diffusée, tant elle était riche et complexe. Donc, Lou Grant est journaliste, il est rédacteur en chef d'un journal de Los Angeles, effet miroir évident, la série surf sur la vague de l'époque, est marquée par le Watergate. Cette série dramatique donc suit Lou Grant et l'équipe du Los Angeles Tribune. C'était en quelque sorte du The West Wing journalistique, une série engagée et très pointue. Alors Lou Grant, quand il arrive en 77 sur CBS, le personnage est interprété par Ed Asner, qui en réalité est très connu à l'époque des téléspectateurs américains parce qu'il l'avait suivi pendant 7 ans dans une série précédente, une sitcom, The Mary Tyler Moore Show, qui se déroulait, elle, dans les coulisses d'une chaîne de télévision. Et dans les années 70, à cette époque, c'était les sitcoms, effectivement, qui, aux États-Unis étaient les meilleures observatrices et critiques de leur temps.
Donc, si j'ai bien compris, Lou Grant, au début, à l'origine, était un personnage de sitcom.
Oui, c'est un petit peu comme si après Friends, on avait demandé à David Schwimmer d'interpréter le personnage de Ross dans une série sérieuse centrée sur une université et la vie professionnelle d'un paléontologue, vous voyez.
J'aime bien l'idée.
Moi, j'aime bien.
Voilà. Ouais. Ben, c'est exactement ça, Lou Grant. De la sitcom, ils enlèvent la dimension humoristique et Lou Grant donc devient ce journaliste consciencieux qui dirige la rédaction d'un journal papier. Générique. Un oiseau sur la branche d'un arbre. Des arbres que des bûcherons abattent, des arbres transformés en pâte à papier, du papier qui termine sur des rotatives, un air de saxo, et les journalistes sur leur machine à écrire. On a sans doute considéré que le travail des journalistes méritait mieux que de recueillir en fin du générique la fiente d'un oiseau en cage, parce que le journal terminait comme ça à la fin d'un oiseau en cage. Donc ça, c'était le principe de la série qui abordait cache via le journalisme d'investigation des thématiques peu traitées à l'époque à la télévision. On y parlait de l'élimination des déchets toxiques, la situation de personnages âgés dans les EHPAD américains de l'époque. La série dura 5 ans, de 77 à 82, mais la liberté de ton et de son engagement à sera notamment sous l'ère Reagan. Il faut dire que Lou Grant, en fait, son comédien Ed Asner, a participé à des manifestations pour s'opposer à la politique des États-Unis en Amérique centrale, un petit peu comme l'a fait Martin Sheen en 2003 face à la politique irakienne de George Bush. Lou Grant mérite d'être redécouverte, Xavier. Je lance d'ailleurs un appel aux multiples plateformes, aux éditeurs DVD. Éditez Lou Grant, s'il vous plaît.
Merci Benoît. Alors, pour mémoire, vous m'avez filé des informations un peu sinistres à dire à la fin de l'émission. Lou Grant était une série créée et produite pour info par la société de Mary Tyler Moore.
MTM, c'est ça.
Et un certain James L. Brooks qui, vous dites juste cela au passage, vous prend votre parole, un des producteurs des Simpsons.
Tout à fait.
Et c'est l'heure du deuxième débat Deutschland 83, Deutschland Drei und 80, si je ne dis pas de bêtises, diffusé sur France 3 depuis le 13 octobre vers minuit, c'est peu dire s'ils y croient, mais vous pouvez retrouver la série en replay. Nous sommes en 1983, c'était dans le titre, donc jusque-là, pas de surprise. En Allemagne, c'était également dans le titre, donc toujours pas d'éléments particulièrement surprenants. La guerre froide connaît une montée en puissance comme jamais.
Comment êtes-vous entré chez moi ?
La porte n'était pas verrouillée. Nous aimerions parler à Martine.
Martine, bonjour.
Bonjour.
Ce sont les camarades Schweppenstedt et Hartmann. Ils ont des questions pour toi.
Hartmann.
Assieds-toi.
Votre tante dit le plus grand bien de vous. Vous avez une bonne compréhension de la lutte des classes. Et au poste frontière où vous êtes affecté, des états de service impeccables. Vous jouez aux échecs.
Fritz.
Oui. Allez nous préparer un bon café. Une toute dernière question. Vous êtes donc disposé à servir votre pays ?
Excusez-moi, mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je sers déjà mon pays, non ?
Là, on parle d'une section d'élite et d'un poste plus important. À l'ouest.
À l'ouest ? Non, non, désolé, j'ai Annette ici. Ma mère est malade, je ne juge pas absolument pas.
Inutile de paniquer comme ça.
Et voilà le café.
Montrez-moi vos mains.
Vous m'avez cassé le doigt, vous êtes malade !
Mais non. Ce n'est rien, c'est juste une foulure.
Je ne le ferai pas, en tout cas. Vous ne m'enverrez pas à l'ouest.
Bon, évidemment, ils vont l'envoyer à l'ouest. Hein. Il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est un extrait du premier épisode.
Quand on voit ce qu'ils
les Allemands de l'Est
sont
persuadés que l'ouest est à la veille d'une invasion définitive et meurtrière du camp communiste. Pour découvrir les plans du camp adverse, le service de renseignement de la RDA envoie à Bonn, sous une fausse identité, un jeune officier hâtivement formé pour tenter de recueillir des informations cruciales. C'est le tout début de 8 épisodes, haletant hommage feuilletonesque au meilleur récit d'espionnage, anxiogène et trépidante. Canal Plus l'avait diffusé il y a quelques années. Ça passe enfin sur une chaîne gratuite. C'est signé Anne et Jörg Winger. Moi, j'ai adoré ça, mais peut-être ne serez-vous pas d'accord. Quelqu'un vous serait viré. Et je vais tout de suite donner la parole à Ariane Alain, par exemple. Donc, aucune pression.
Aucune pression. Aucune. D'ailleurs, je reste, puisque moi aussi, j'ai totalement adoré. J'étais vraiment la première surprise, parce qu'évidemment, une série allemande, on se trimballe quand même beaucoup de clichés et de stéréotypes en tête. C'est-à-dire qu'on imagine une lenteur excessive, une image verdâtre et des personnages totalement ennuyeux. C'est absolument le contraire. Moi, j'ai été saisie. Je trouve que c'est léger, que c'est vif, c'est haletant, c'est totalement réussi. Je pense que le contexte politique, cette crise des euromissiles, un peu oubliée, je dois dire, et pour beaucoup. Mais c'est surtout qu'en fait, je trouve qu'il parvient à...
On y a vraiment cru à l'époque. Hein. On pensait que...
On y a cru, et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend du recul, on se dit quand même que la guerre froide, on l'associe beaucoup plus aux années 50 et 60 qu'aux années 80. Or, et le générique en cela, il est formidable, parce qu'on voit tout de suite l'image de Reagan et son fameux discours sur l'Empire du Mal, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est génial parce que d'un coup, toutes les images reviennent en vrac. Ce générique est absolument formidable. Ce que je voulais dire, pourquoi cette série elle est formidable, c'est qu'elle arrive à mélanger, comme rarement on le voit, je trouve, politique, action et humour. Parce qu'évidemment, au départ, la situation est totalement invraisemblable. Ce jeune bleu qui est balancé, en plus par la Stasi, on imagine quand même qu'ils envoient en général des espions un tout petit peu moins novices quand même que ce genre de personnage.
C'est pas James Bond, ouais.
Et en fait, il a une trajectoire géniale parce que très vite, ça devient un séducteur improbable. Il couche avec toutes les filles qu'il faut, avec lesquelles il faut coucher pour obtenir des informations. C'est génial.
C'est parti du métier.
Mais c'est très très drôle. Et c'est très très drôle parce qu'il le fait avec une décontraction. Et puis même la première fois quand il est balancé dans un supermarché, en RFA. Je trouve que c'est assez génial aussi le regard qu'il peut porter pour cette espèce d'abondance de vivre, de
société
fruits
de
et de légumes, de société de consommation. Justement, je trouve que ça balaye très joliment l'époque, sans nostalgie. C'est une manière très fluide aussi de raconter les deux sociétés, c'est-à-dire la RDA et la RFA, avec humour, ce qui est quand même assez inattendu, parce qu'en fin de compte, je pense qu'aujourd'hui encore, dans l'Allemagne, cette scission reste quand même pesante, lourde, et il y a probablement encore beaucoup de ressentiments entre les Allemands d'Est et les Allemands de l'Ouest. Et je trouve qu'il y a un côté presque généreux qui est, enfin, pour moi, est formidable. Je ne parle pas de la BO, je vous laisse en parler. Et je pense que c'est un des plus gros atouts aussi.
Totalement d'accord avec vous. Avant que vous nous le disiez, vous n'étiez pas né en 83, donc vous avez regardé cette série de manière un tout petit peu curieuse en demandant quelle folie traversait le monde à cette époque. Mais en tant que fan de série et analyste éminent.
Je rejoins absolument Ariane, c'est un programme pop qui marche à contre-courant de toutes les séries allemandes qu'on a l'habitude de voir. C'est la co-créatrice de la série qui disait le passé de l'Allemagne est souvent traité avec un très grand sérieux à la télévision. Nous avons préféré une série légère à une pesante leçon d'histoire. Et ben tout est résumé, je crois, dans ces quelques mots. Puis je reviens un petit instant sur le générique d'ouverture parce que c'est vrai qu'il est formidable. On entend Blue Monday de New Order. Et puis ce qu'on voit, c'est tout de suite ce personnage, parce que c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est que on est à hauteur d'homme. On voit le conflit à travers les yeux d'un jeune garçon de 24 ans. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc? Ce jeune homme, torse nu, une ligne diagonale.
Ah, voilà, ça, évidemment. C'est tout ce que vous retenez de la guerre froide.
Une ligne diagonale, voilà, qui traverse l'écran, qui est à la fois la division identitaire du héros et aussi la division du pays, RDA, RFA. Mmh. Et puis, la projection sur ce corps qui fait écran, tout d'un coup, de Reagan, de cette peur manifeste de ce nuage nucléaire, etc., etc. La BO est à tomber par terre, évidemment. Alors, Tears for Fears, on en parlait.
Mad World.
Mad World, voilà. C'est absolument bouleversant. Et non, il y a un rythme. Il y a un rythme qui est tenu de bout en bout. On sent vraiment l'urgence de la mission. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que il s'engage pas comme ça, hein, ce héros. C'est du chantage affectif, hein, ouais.
Très juste,
base. Hein, voilà. C'est parce que sa maman est malade, elle est diabétique, elle doit être greffée. Et donc, il s'engage dans cette mission pour pouvoir sauver maman. Et ben, moi, ça y est, hein, mon cœur est pris.
Benoît Lagan, le garçon torse nu sur lequel le générique se projette, vous a-t-il laissé indifférent? Allez-vous regarder la série, au moins?
Oui. Alors moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que par ailleurs, quand on a vu par exemple la série The Americans, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'autre versant. Et ça, c'est plutôt intéressant d'avoir sur cette même période des regards comme ça différents. Je suis d'accord avec vous sur le côté pop, sympa, l'humour que j'attendais pas dans une série de ce genre. Ça, c'est très réussi.
Quand les Allemands de l'Est découvrent la disquette,
voilà, c'est génial. C'est très bien. La découverte du Walkman.
Alors là, c'est vrai que la découverte du Walkman, moi, ça m'a fait penser un petit peu comme quand Jarod dans le Caméléon découvrait des choses en sortant. Donc il y avait ce côté-là très plaisant. Après, justement, je veux citer The Americans. Dans The Americans, il y avait une dimension de la chronique intime qui était très fine. Là, je trouve que ce qui manque, c'est, voilà, dans cette série qui est globalement plutôt réussie, c'est ça. C'est-à-dire que la quotidienneté familiale est parfois un petit peu trop rapidement évacuée pour l'humour, pour l'action. Et je trouve que le personnage de la petite amie de ce fameux torse nu de 24 ans, qui est restée elle... de Martine, donc la petite amie de Martine qui est à l'Est. Eh ben elle, ce personnage, je trouve, est vraiment sous-exploité.
Non, je trouve.
Parce qu'elle est extrêmement ambiguë.
Elle est caricaturale.
Non. Je la trouve imprévisible, je la trouve complexe, je la trouve ambiguë, je la trouve pas très sympathique.
Tous les personnages féminins sont très intéressants.
Et justement, elle a une complexité qui apparaît au fur et à mesure, c'est très progressif. Évidemment, on la voit, c'est pas un personnage de premier plan, mais je la trouve super intéressante.
Comme la mère, comme la tante. Ouais.
On va laisser Benoît conclure.
Je suis pas tout à fait...
Même si par le mal, on va être obligé de laisser la parole.
Non, mais je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement moi ce qui m'a intéressé d'abord et avant tout, et c'est ce que vous avez cité en premier lieu dans ce débat, c'est l'aventure de Martine. Si vous l'avez pas cité, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire et dans le scénario, peut-être qu'elle est pas assez présente. Voilà, mais c'est pour trouver quelque chose que
Trop réserve. Voilà.
On est bien d'accord. Hein, si la petite copine avait enlevé son t-shirt, le débat n'aurait pas. Il y a aussi l'avènement du SIDA qui à un moment. Alors c'est une mini-série qui se situe en 83. Sachez que Deutschland 86 a existé, déjà diffusé par Canal, donc on espère très prochainement une diffusion sur une chaîne publique. Et il y aura un Deutschland 89 évidemment autour de la chute du mur. trop vite et en même temps trop court, je vais dire, la chanson d'Isia, extrait de son nouvel album, salué par la presse Citadelle, qui est sorti il y a une petite semaine. Elle sera en tournée à partir du 8 novembre à La Rochelle et le 1er avril 2020 à l'Olympia.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment où je vous propose de découvrir une pépite encore inédite sur les écrans français, mais dont je croise les doigts pour qu'elle soit rapidement diffusée. Ça s'appelle World on Fire, le monde en feu. C'est sur la BBC One. 7 épisodes, on en a vu que 2 à ce jour. 1939, Hitler lance son assaut contre la Pologne. À Berlin, une journaliste américaine dont les éditoriaux sont évidemment censurés par les autorités découvre la montée du nazisme et le début des politiques hégémoniques qui, à cette époque, sont surtout tournées vers les malades et les handicapés. À Paris, son frère médecin file le grand amour dans les bras d'un beau saxophoniste noir, une passion interdite qui leur permet de feindre d'ignorer la guerre qui approche. À Varsovie, une jeune Polonaise décide de rentrer dans la résistance contre l'envahisseur germanique. Et à Londres, un fils de la noblesse et une fille de prolétaire s'aiment et luttent contre la montée du fascisme dans leur pays. Vous avez compris, c'est un guerre-épée au cœur de la Seconde Guerre mondiale, flamboyant, un romanesque exalté, assumé, une puissance de mise en scène, une reconstitution époustouflante des acteurs britanniques. Donc évidemment, vous aurez compris que ça signifie immédiatement qu'ils sont tous excellents. Mais il y a également l'américaine Helen Hunt, célèbre dingue de toi, et qu'on avait adoré dans le Woody Allen, le sortilège du scorpion de Jeanne. Avant, vous ne me direz pas le contraire. La mini-série est signée Peter Bowker, qui avait signé en 2004 Blackpool. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Génial.
Cette série musicale,
comédie musicale
sur fond de mafia britannique. Voilà, ça s'appelle World on Fire. C'est sur la BBC One, et c'est vraiment ce que les Anglais savent faire dans le romanesque, dans l'historique et dans le politique. Et c'est presque la définition de la série suivante.
Oui. Quelle transition.
Quelle transition.
Oh là là,
on a presque l'impression que je suis un professionnel.
Sens de l'éditorial.
Tout va bien, restons raisonnables. Débat donc, troisième débat, Chimérica sur Canal+, depuis le 14 octobre. Alors là, on fait court, mini-série de 4 épisodes. Mais de temps en temps, c'est bien que les auteurs ne disent pas plus qu'ils n'en ont besoin, entre guillemets. Tout commence le 5 juin 1989, lorsque le photojournaliste Lee Berger immortalise un homme se dressant seul face à une colonne de chars sur la place de Tiananmen.
Célèbre photographe ?
Non, j'ai juste pris une photo qui est célèbre.
Vous savez ce qu'il est devenu ?
Malheureusement, non.
L'homme au char, l'homme au char. On dit qu'il est parti en Amérique.
Tu sais comment il s'appelle ? Il n'est pas mort. Imagine, si j'arrive à photographier l'homme au char, tous les journaux du monde s'empresseront de m'ouvrir grand leurs portes. Vous le connaissez ?
Parce qu'entre Chinois, on se connaît tous, c'est ça ?
Tu es fou ou quoi ? Pourquoi m'envoyer un message pareil ?
Je veux pas d'histoire.
Je veux que vous abandonniez votre enquête.
Est-ce que vous réalisez ce qui se passe ?
Il y a une tempête qui se prépare.
J'ai pas peur de vous !
Voilà une image inoubliable qui a fait l'histoire et la réputation de son auteur. Mais en 2007, Lee Berger, qui est donc devenu un reporter de guerre confirmé, truque une de ses photos et il se fait épingler par un site et par une jeune de ses consoeurs. Pour tenter de se racheter, il va tout faire pour retrouver justement l'homme au sac de la place Tiananmen qui pourrait avoir échappé aux représailles chinoises et trouver refuge aux États-Unis. Alors c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre signée Lucy Kirkwood, une femme, créée en Angleterre en 2013. Lorsque Channel 4 en 2016 lui propose d'adapter sa pièce, elle réactualise son sujet pour ramener à la fois l'élection de Trump, c'est-à-dire que les 4 épisodes se déroulent vraiment en vis-à-vis de l'élection douteuse de Donald Trump, mais également l'avènement du Brexit en Angleterre. Une mini-série politique absolument remarquable en ce qui me concerne, avec Alessandro Nivola et Jerry Jones. Alessandro Nivola, on l'avait vu au Most Violent Year, formidable film, mais également désolé.
Absolument.
Et Jerry Jones, qu'on adore, qui avait été présidente trop géniale dans les 24 heures chrono. Oui, voilà, absolument. C'est vraiment aussi une série qui réfléchit aux fake news, comment est-ce qu'on manipule l'information, la censure. Moi, j'ai adoré ça, mais dites-moi ce que vous en pensez. Benoît, vous n'avez pas pour l'instant commencé les débats.
Ben, moi, j'ai vraiment aimé Chimérica. D'abord, pour la première chose, par rapport à ce que dit le titre, Chimérica, Chi pour Chine, America, puis Chimère. Enfin bon, il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'idée qu'on raconte cette relation, finalement, qu'on raconte peu, des rapports entre l'Amérique et la Chine. Donc ça, c'est vraiment la première chose.
Chinois qui ne ne parle pas anglais, mais qui parle chinois dans la vidéo. Oui. S'il vous plaît, regardez la série en VO sous-titrée.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Ce qui est bien aussi, c'est de voir ce que les Chinois pensent, notamment de Donald Trump. Ça, c'est assez génial. Mais moi, ce qui m'a le plus emballé, c'est pour ça que dans les films noirs, j'ai parlé de Lou Grant, c'est que c'est pour moi, d'abord et avant tout, une grande série sur le journalisme et sur les problématiques du journalisme actuel. L'histoire de ce vieux journaliste qui a pris cette photo à l'ancienne, qui se retrouve confronté à une nouvelle façon de faire du journalisme avec les réseaux sociaux, comment ça remue tout ça. Est-ce que ça
qui a menti, qui a truqué,
qui a quand même
trahi l'éthique de son
bien
équipe.
Bien sûr,
c'est là où la série est formidable, qui est très britannique.
Et c'est pas du tout manichéen, et c'est ça qui est vraiment génial. Et puis, sur ce que ça dit aussi de ces moments où, justement, quand on trompe en tant que journaliste, dans une époque où, si on est journaliste et qu'on trompe, qu'est-ce que l'on est face à des politiques qui mentent? Et en l'occurrence, le fait que ça passe au moment de l'élection de Trump, tout ça est très très fort. Et puis, des moments très beaux dans la série, comme ce moment sur le toit, ce cours d'anglais en chanson que j'ai trouvé magnifique. Enfin voilà, c'est vraiment bien maîtrisé. Moi, j'ai presque trouvé dommage que ce soit pas le début d'une grande série sur le journalisme, un newsroom à l'anglaise, par exemple, parce qu'il y avait tout, et du coup, peut-être trop parfois dans ces quatre trop petits épisodes.
C'est vrai que c'est très riche, c'est très dense. Hein. On a quatre épisodes où il se passe, mais alors massivement des choses. C'est la question du point de vue qui est vraiment essentielle, je trouve, dans la série, et d'autant plus dans une actualité où on a un rapport un petit peu chaotique à la profession de journaliste qui est dénigrée, notamment par la Maison Blanche, l'époque des fake news, etc., etc. C'est des personnages qui sont très complexes, qui ne sont jamais manichéens. On en parlait pour la série d'espionnage précédemment, mais là, c'est véritablement le cas. Comment vous dire? Moi, ce qui m'a plu, c'est ce carton, finalement, en ouverture. Il est important parce qu'il dit fiction inspirée de faits réels. D'habitude, on a inspiré d'une histoire vraie. Et bien là, le mot fiction, je trouve qu'il a vraiment tout son sens et qu'il est porté par la série, même s'il y a bien sûr les événements de 89 et l'avènement de Donald Trump, le Brexit comme on l'expliquait, il y a quand même une dose de fiction qui est nécessaire, une urgence aussi, un suspense qui est formidable et qui nous tient jusqu'à la fin, jusqu'au quatrième épisode.
Ariane Allard, partagez-vous cet enthousiasme?
Oui, oui, tout à fait. Moi, je
merci beaucoup.
Merci Xavier. Ce que je trouve intéressant en fait, c'est que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est une quête de rédemption. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que la quête personnelle de ce photographe, parce que c'est un photographe de guerre plus ou moins, épouse en fait la quête de la profession. C'est-à-dire que c'est une profession aujourd'hui qui est en perte de crédibilité, et je pense que s'il y a une dimension aussi impuissante, je trouve, de ce récit, c'est que c'est pas seulement un personnage, c'est un personnage emblématique et symbole d'une profession elle-même en perte de crédibilité. Ça, je trouve ça très intéressant. Après, ce qu'a dit Benoît aussi, moi, m'a intéressé. Moi, je connais pas grand-chose, très honnêtement, relations économiques et politiques entre la Chine et les États-Unis. Et ce que je trouve étonnant et détonnant, surtout, c'est qu'on a le point de vue, bien sûr, anglo-saxon, c'est-à-dire anglais et américain, mais on a aussi le point de vue chinois. Ça, moi, ça m'a passionné, c'est très rare, je trouve, qu'on ait les deux points de vue à égalité.
On a presque
plus
trois points de vue, il y a presque une triangulaire.
Oui, parce que le point de vue anglais est très intéressant aussi, par le biais de cette femme un peu curieuse, qu'il croise dans un avion avec lequel il va avoir une liaison un peu tendue. Et voilà. Moi, j'ai juste une toute petite réserve, mais je tiens quand même à la signaler.
On a plus
pour le temps,
c'est dommage.
C'est juste pour dire que moi, je trouve que Alessandro Nivola, son personnage, mais lui aussi, je trouve que il manque un peu de charisme. Or, c'est quand même lui qui porte le récit et le fil. Il est entouré de personnages, notamment de personnages féminins, qui sont beaucoup plus forts, qui sont des personnages de caractère, et en plus, qui sont incarnés par des actrices, comme l'a cité tout à l'heure Xavier, qui sont assez formidables, qu'on aime beaucoup. Et il me semble, moi, alors peut-être qu'effectivement, il joue un personnage un peu médiocre, et que du coup, bah voilà, on peut le justifier de cette façon-là. Moi, il m'a semblé qu'il manquait un peu de densité, de charisme et de complexité, un tout petit peu.
Benoît.
Moi, j'ai pas trop trouvé. Je trouve qu'il colle bien au personnage et au baroudeur. Peut-être ce qu'il faudrait pour que l'auditeur comprenne bien, quand même, c'est que, Xavier, vous avez bien rappelé, c'était une pièce de théâtre. On a parlé du journalisme, on a parlé de toutes ces thématiques, mais c'est d'abord un très grand thriller. C'est-à-dire que ça se regarde comme un grand thriller, une série policière avec cette enquête autour de cet homme au char, là, justement. Est-ce qu'on va finir par le retrouver? Et avec la grande force de la série, comme savent le faire les Anglais, on en a parlé la semaine dernière avec The Victim, avec le twist final, qui vraiment est étonnant, comme dans un bon polar anglais. Tout le monde peut suivre cette série, c'est très grand public.
Et les références sont très cinématographiques, elles citent State of Play, Les Hommes du Président, enfin voilà, on a vraiment tout ce champ-là.
C'est pas Robert Redford.
On a encore quelques secondes pour parler de la mise en scène qui arrive à utiliser de manière très pertinente et très subtile les images d'archives. C'est généralement un peu casse-gueule d'aller utiliser les images d'archives. Mmh. C'est un côté testimonial. Regardez comment on a bien reconstitué autour. Et je trouve que la manière dont elles sont utilisées là sont extrêmement fines, extrêmement intéressantes. Et la reconstitution de l'assaut Tiananmen, qui est un fil conducteur dont on découvre à travers les souvenirs du personnage chinois principal, ce qu'il a été, le drame qu'il a poursuivi. Moi, je trouve qu'il y a une force de mise en scène qui comble peut-être effectivement l'effet trop plein du scénario.
Ah voilà, on est sur la place, on est dans la place et on est aux côtés des personnages. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec eux, sous leur tente, et quand ils sont chargés, etc. Ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire et culotté.
Et si ça marche, cet aller-retour, que, comme vous disiez, Xavier, c'est qu'en réalité, les images sont d'actualité, celles de Trump. Donc, les images de 89 marchent avec des images fictives. C'est-à-dire qu'on ne traite pas l'archive que pour l'archive. On traite aussi les images d'actualité comme les images d'actualité.
Bon, je crois qu'on aura compris un engouement quand même quasi collectif autour de cette app pour Chimérica sur Canal+, depuis le 14 octobre. Il fallait une musique idéalement trouvée, évidemment, pour accompagner cette série. Je ne vous en dis rien, vous reconnaîtrez de vous-même. I look at my China girl. Voilà China Girl, David Bowie, 1983. Ben, un tube à l'image de son interprète, immense, immortel, furieusement sensuel. Ça a dansé en plateau.
Oh oui.
C'est... Il paraît qu'il est mort, moi je veux pas le croire.
Non, non.
Non, il va revenir, non, hein. Ouais, on est bien d'accord. Mmh. D'accord, tout va bien alors.
France Inter. Une heure en série.
Le conseil littéraire de cette semaine, je suis pas allé chercher très loin, d'accord, mais l'album est tellement beau que je vous le recommande à nouveau. Nos espoirs brisés, Tiananmen, 1989, c'est un roman graphique signé à six mains, Lu Zhang, Adrien Gombeau et Amézian, c'est chez Delcourt Seuil. C'est le récit jour après jour d'après la mémoire justement de Lu Zhang qui a participé aux manifestations estudiantines de Tiananmen. Aujourd'hui, il est réfugié en France. Voilà, il a été au premier plan de la répression sanglante qui évidemment a suivi ces manifestations. Je vous l'ai dit, c'est un roman graphique, une reconstitution qui évoque l'ouverture tuée dans l'œuf, évidemment vers plus de réformes démocratiques, la galvanisation d'une jeunesse qui rêvait en écoutant Wham à plus de liberté et le rêve brisé de celle-ci. Adrien Gombeau, qui est un journaliste, a donné superbement texte et dialogue aux mots de Lu Zhang, qui fut un témoin acteur de cette tragédie. Et saluons le dessin d'Amézian, qui est absolument magnifique, qui travaille un sépia avec quelques petites touches de couleur pastel, comme une photo qui aurait été délavée, laissée comme ça à l'abandon. Et qu'il est nécessaire de sortir, évidemment, des limbes de l'oubli. On n'oubliera jamais nos espoirs brisés. Tiananmen, 1989. Lu Zhang, Adrien Gombeau, Amézian, chez Delcourt Seuil. C'est absolument magnifique. Noël arrive. Faites une idée de cadeau. Et c'est l'heure du plateau télé. Alors, on a recommandé pas mal de choses, déconseillé quelques-unes. Là, maintenant, vous allez pouvoir être 100% positif et nous recommander la série que, d'après vous, il ne faut pas louper cette semaine. Ariane Allard, je suis tellement d'accord avec vous sur votre choix que je vais faire la chronique à votre place.
Bah, volontiers,
Enquête codée.
Volontiers.
Sur, je n'aurais pas votre talent. Enquête codée, série britannique sur Netflix.
Exactement. Alors, moi, je voulais parler de cette série parce que je trouve que c'est une série qui est à la fois modeste et brillante. Et je trouve dommage.
Comme vous.
Voilà, à peu près. Je trouve dommage parce qu'en fait, au moment de sa première diffusion, c'était sur France 3 d'ailleurs, si je ne m'abuse, elle n'a pas vraiment bénéficié d'un lancement, on va dire, tapageur, et pas plus d'ailleurs que son spin-off, hein, qui s'appelle Enquête codée San Francisco. Alors, spin-off, je rappelle pour les gens qui ne sont pas bilingues, que c'est en fait une série dérivée, hein, qui se focalise sur un ou deux personnages d'une série précédente.
Qu'on déplace ou géographiquement.
Voilà.
Ou...
Et qu'on déplace aussi géographiquement. Là, en l'occurrence, c'est les deux, hein, c'est-à-dire qu'on reprend deux personnages d'Enquête codée, et au lieu que ça se passe en Angleterre, comme la première série, ça se passe à San Francisco.
Maintenant, il serait temps de nous parler de la série, Ariane.
Alors, pourquoi c'est une série brillante? Je dirais d'ailleurs, la première chose, c'est que c'est discrétion, je trouve qu'elle suit complètement la trajectoire des quatre héroïnes, puisque chaque fois ce sont quatre héroïnes, ce sont à la base quatre femmes qui semblent ordinaires, l'une est bibliothécaire, l'autre est gouvernante dans une famille huppée, et en fait, sauf que la différence, c'est qu'en fait ces femmes pendant la guerre n'ont pas du tout été ordinaires, puisqu'en fait, elles ont été recrutées pour craquer les codes de chiffrement allemand, c'est-à-dire qu'en gros, ces ladies bien peignées, bien habillées et toutes discrètes ont joué un rôle carrément primordial dans la victoire des Alliés. Sauf que bien sûr, nous sommes, la première série se passe en 52 et la deuxième en 56. Nous sommes donc après-guerre. Et après-guerre, bah, qu'est-ce qu'on dit aux femmes? On dit aux femmes de retourner dans leur cuisine. Donc en fait, qu'elles font-elles? Eh ben, elles vont un tout petit peu s'ennuyer. Et du coup, eh bien, elles vont retrouver à travers en fait une série de meurtres non résolus. Elles vont se regrouper, faire jouer à nouveau la solidarité féminine et surtout, incidemment, aider la police à résoudre une enquête criminelle pour le moins complexe.
Un serial killer dont elles vont décrypter le schéma.
Absolument.
Qui n'apparaît nulle part, en
Parce
fait.
Parce que le schéma, c'est ça qui les intéresse, c'est comme des codes, en fait.
Voilà.
Elle reprend le principe de ce qu'elle appelle le pattern, c'est-à-dire le schéma, absolument, c'est exactement ça. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime le suspense, parce que je trouve ça extrêmement rigoureux. J'aime évidemment cette solidarité féminine. Et puis j'aime l'enjeu contemporain, quand même, mine de rien. C'est-à-dire que c'est absolument pas martelé, ni appuyé, mais ça pose quand même la question de la place de la femme dans une société masculine, et notamment de la place des femmes brillantes, dans une société qui est en pleine reconstruction, parce que les années 50, c'est ça, mais qui est aussi complètement conservatrice. Paradoxe intéressant. Hein. Et je trouve qu'il y a quelque chose de poignant autour de ces femmes, je termine, qui sont à la fois vaillantes et futées, mais surtout qui sont empêchées, c'est-à-dire qu'elles sont assignées à des tâches subalternes dont elles ont du mal à sortir. Il y a vraiment quelque chose de poignant. Moi, j'ai pensé de temps en temps, parce que la mise en scène est particulièrement discrète et élégante, ça m'a fait penser parfois, très honnêtement à certaines scènes du cinéma de Douglas Sirk. Vous savez, ces mélos absolument magnifiques et cruels, et qui sont surtout dans l'empathie avec ces héroïnes qui sont empêchées et brisées. Et je trouve quand même qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc j'encourage vivement tout le monde à redonner une deuxième chance à ces quatre filles dans le vent.
Enquête codée et enquête codée San Francisco, donc sur Netflix. Je suis tellement d'accord avec vous. On est un peu dans le même registre. Moi, je vous recommande Cold Case. Alors évidemment, j'enfonce des portes ouvertes. Je trouve que c'est une des meilleures séries créées dans les années 2000. 7 saisons, 156 épisodes, l'histoire d'une brigade policière postée dans la ville de Philadelphie, où il pleut quand même très très souvent. Brigade dirigée par une jeune femme, Lily Rush, spécialisée donc dans la réouverture d'enquêtes trop vite fermées, trop vite bâclées. Trois raisons de revoir cette série absolument formidable, produite par Jerry Bruckheimer. D'abord, l'actrice principale, Catherine Morris, qui est une petite blonde comme ça, un peu discrète. Vous en parliez très bien, Ariane, il y a quelques instants, mais qui a une vraie pugnacité. Je trouve que sa mélancolie naturelle va particulièrement bien au personnage de Lily Rush, qui va aller chercher dans le passé. Deuxièmement, une série hautement politique et sociétale, car tous ces cold cases, ces affaires classées, font remonter à la surface la mémoire déniée et un peu honteuse de l'Amérique, surtout le sort fait aux minorités LGBT, les femmes, les noirs, les immigrés, les hispaniques. Faudrait la regarder avec encore plus d'acuité maintenant que Donald Trump est au pouvoir. Ça va même jusqu'à, par exemple, il y a un épisode formidable où on montre que ces femmes qui ont dirigé et travaillé en usine pendant que les hommes étaient à la guerre sont, comme vous le disiez, virées. C'est la guerre de 14, au moment où elles rentrent, donc elles perdent cette autonomie qu'elles ont gagnée. Et puis, troisième raison, une BO géniale, c'est-à-dire que chaque épisode, ce qui a empêché d'ailleurs la série d'être distribuée en DVD parce que ça coûtait trop cher en droit, chaque épisode est accompagné de musique qui contextualise extrêmement bien l'époque et qui accompagne dans la mélodie et dans la nostalgie chaque épisode. Il y a un épisode en hommage au Rocky Horror Picture Show qui est un chef-d'œuvre absolu. Benoît, normalement, je ne vous donne pas la parole, mais vous la prenez, donc allez-y. Non,
justement, l'épisode avec tous les titres de Bruce Springsteen est étonnant aussi. Voilà, composé uniquement avec la musique du boss.
La fin du plateau télé, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine avec Ava, Kaen? Avec Ava, on regarde tout, de toute façon.
On regarde surtout des trucs un petit peu de filles maintenant. Voilà, ça s'appelle Plan Cœur. La saison 2 vient de démarrer sur Netflix.
Ma femme adore. Je crois pas que ce soit un compliment. Vive la misogynie de base.
Voilà, je ne vous cache pas que la première saison m'avait tapé dans l'œil. C'est une co-création de Noémie Salio, à qui l'on doit Connasse de Camille Cotin. Je suis ravie de pouvoir dire ce mot à l'antenne. C'était aussi co-écrit avec Julien Tessier et Chris Lang, qui est scénariste britannique, un scénariste britannique de renom. Alors, Plan Cœur, ça parle d'une jeune femme de 30 ans qui habite Paris, qui a deux copines avec qui elle fusionne, et un ex-petit copain un peu salaud qu'elle n'arrive pas à oublier. Pour sauver le cœur d'Elsa, l'héroïne, donc les deux héroïnes vont se payer les services d'un gigolo qui va faire vivre à Elsa une histoire d'amour, comme on en voit dans les films, hein, une histoire pas très réaliste, jusqu'à ce qu'Elsa découvre le poteau rose, le vrai, le faux, le laid, le beau, voilà, tout se mélange. C'est une sympathique sitcom qui reprend les codes de la comédie romantique. On a tout le catalogue des ressorts classiques du genre, et ça file l'art de la mascarade avec un certain talent. C'est clairement à destination des jeunes trentenaires, un peu dingues de Love Actually et de Bridget Jones, qui sont deux des références sensibles de ce programme. La saison 1 avait été plébiscitée, saluée pour son humour et ses comédiennes, puisque c'est une série très incarnée. Il y a un super casting, Zita Enro, Sabrina Ouazani et Joséphine Drey, trois natures différentes, trois profils féminins différents. La saison 2 est peut-être moins réussie, moins rafraîchissante.
Simplement moins surprenante, mais tout aussi sympathique.
Peut-être moins surprenante. Voilà, le pacte du burlesque est vraiment là. Hein. On ne fait pas le pacte du réalisme avec cette série, c'est le pacte du burlesque. Bon, voilà, la saison 2 est un peu décevante, mais la saison 1, ceux et celles qui ne l'ont pas découverte, allez-y, c'est à découvrir d'urgence.
Messieurs et mesdames les producteurs de séries télé, si vous voulez qu'Ava Kaen défende votre programme, mettez des garçons joliment foutus et de préférence torse
nu. Et des jolies filles aussi.
Et voilà, et vous aurez une bonne critique. Bon, allez, Benoît.
Non, mais j'aime bien parce qu'Ava, elle dit gigolo, alors que dans la série, ils disent le pute.
Ils disent un pute.
Voilà, c'est juste.
Ah, c'était ça?
Ah, bah oui, mais
vous vouliez prendre la parole pour ça?
Mais non,
il est temps que l'émission s'arrête, donc. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce 8e épisode d'une heure en série. Nous vous avons recommandé, ou pas, Raving Diane sur Netflix, je crois pas beaucoup. Si. Deutschland 83 sur France 3, beaucoup. Et Chimérica sur Canal+, énormément. La semaine prochaine, nous évoquerons la dernière Vague, une série fantastique sur France 2, fantastique dans le genre fantastique, hein, je n'ai rien dit pour l'instant, Mental sur France TV Flash et Watchmen sur OCS, sans doute une des séries les plus attendues de cette rentrée. D'ailleurs, en guise d'avant-goût, je vous recommande d'écouter l'excellent podcast de Fred Sigrist consacré au roman graphique de Alan Moore et Dave Gibbons, Watchmen, dans sa série Blockbuster. Voilà, c'est fini, une émission, une heure en série à réécouter en podcast. Il y a un site internet, Le Courrier. Merci encore à notre auditrice de la d'avoir utilisé pour justement donner son opinion et rectifier un tout petit peu
avec
un débat
raison
sur Mytho qui n'avait pas été très favorable. L'émission a été réalisée par Marie-Annick Rimbaud, à la programmation musicale Muriel Pérez, et merci encore pour David Bowie, et préparée avec Amel Caldi, à la technique cette semaine Tiffany Battistel.